Eh bien, on va débuter. Bonsoir, bienvenue dans ce troisième amuse-bouche de la chaire Transition alimentaire. Donc, on est accueillis dans cette belle salle par la métropole qui a donc ses lieux de la Cité internationale de la gastronomie. On les remercie pour leur accueil. Et la chaire Transition alimentaire est une chaire de recherche coportée par l'Université Lumière Lyon 2 et l'Institut Paul Bocuse. Et donc, on organise tous les mois depuis le mois de mars, ces séminaires voilà, de rencontres entre acteurs et chercheurs, actrices et chercheuses, souvent. Voilà, c'est le troisième épisode ce soir. Tous les épisodes sont disponibles en podcast sur le site de la chaire. La prochaine séance aura lieu le 9 juin et accueillera notamment Gilles Fumet sur les questions de lien entre alimentation locale et globale, enjeux globaux, internationaux et locaux de l'alimentation. Et ce soir, c'est donc l'axe éthique de la chaire Transition alimentaire qui a quatre axes de recherche qui est représenté. Et donc, je vais laisser Stéphanie Verfait, qui est responsable de cet axe, introduire cette rencontre et puis passer la parole à nos intervenantes. Bonne soirée.
Merci. Donc, l'amuse-bouche de ce soir, il est consacré à l'axe éthique et égalité d'accès à une alimentation de qualité, que j'ai effectivement le plaisir de coordonner au sein de la chaire TRALIM. Alors, juste pour rappel, la chaire TRALIM, Transition alimentaire, elle a pour objectif essentiel de trouver des projets, de monter des projets, de promouvoir des projets entre différents acteurs, que ce soit des chercheurs, des associations, des institutions publiques, des collectivités territoriales et tout acteur du monde socio-économique. Donc ces partenariats, c'est pour montrer en fait qu'on a vraiment qu'on peut mettre à disposition plusieurs approches. Souvent, c'est des projets multidisciplinaires, pluridisciplinaires, donc qui permettent une approche, une réflexion collective et pluridisciplinaire. Et donc, je trouvais intéressant ce soir d'inviter donc Séverine Saleil, qui est chercheuse et maître de conférences en gestion à l'Université Lyon 2, et Marie-Amandine Vermillon, qui est la cofondatrice de l'association Belle Bouffe, pour vous montrer finalement comment on peut travailler ensemble et comment on est complémentaires entre associations, chercheurs, et voilà, comment on peut monter des projets ensemble. Donc je les remercie très chaleureusement d'avoir accepté d'intervenir ce soir pour témoigner de ces collaborations, de leurs actions et de tout ce qui se développe à Lyon autour d'un objectif commun qui est une meilleure accessibilité à une alimentation de qualité pour tous. Donc ce soir, Séverine et Marie-Amandine, elles questionneront notamment le pouvoir d'agir des mangeurs et exposeront à travers l'exemple de l'association Belle Bouffe les possibilités d'action pour renforcer ce pouvoir d'agir des mangeurs. Elles nous aideront également à mieux comprendre la notion de justice alimentaire et les enjeux actuels qui en découlent. Donc je leur laisse la parole pour cette amuse-bouche que nous avons intitulée Repolitiser la transition alimentaire, quel pouvoir d'agir des mangeurs pour un système alimentaire durable et juste.
Merci Stéphanie de nous donner l'occasion d'échanger sur cette question. Et effectivement, on a dans le titre évoqué deux éléments, à la fois d'aller vers un système alimentaire durable et vers un système alimentaire juste. Alors, on va peut-être commencer par évoquer les enjeux justement d'accoler l'adjectif juste à l'objectif de transition vers un système alimentaire durable, puisque c'est vrai que on va dire, on a progressivement accolé un petit peu cette notion, voilà, de justice alimentaire sur les enjeux de transition alimentaire. On peut partir, disons, d'une analyse plus peut-être personnelle, ou en tout cas des travaux qu'on a pu mener, voilà, depuis une quinzaine d'années à Coactis, notamment avec ma collègue Émilie Lanciano. On s'est concentré sur l'étude d'organisation qui proposait finalement de produire, de transformer, puis de distribuer des produits de façon différente, dite alternative finalement au système agro-industriel. Et ce qu'on a constaté évidemment, et pas que nous, hein, mais de nombreux travaux l'ont fait, c'est que l'alternative système alimentaire durable, elle porte sur énormément de dimensions. puisque finalement une alimentation durable, elle doit arriver à parvenir à être bonne pour la santé de l'homme, hein, donc proposer évidemment des produits nutritionnellement bons, qui sont peu transformés, orienter les achats vers certains produits qui sont plus sains. Il y a différents travaux, voilà, je les détaille pas là, hein, mais qui portent sur finalement cette idée-là de qu'est-ce que doit être une alimentation qui permet finalement d'assurer aussi une bonne santé. Également, évidemment, c'est une alimentation qui doit être bonne pour la santé, avec l'impact écologique minimisé. Là aussi, il y a eu beaucoup de travaux et d'efforts qui ont été menés pour essayer de voir comment réduire l'impact environnemental de l'alimentation dans les systèmes alimentaires alternatifs, hein, autour de production biologique, de la diminution des transports, du gaspillage, du changement d'alimentation vers une alimentation plus végétale, etc. Et enfin, un point aussi important dans l'alimentation durable, c'est qu'elle soit effectivement, cette forme d'alimentation soit bonne pour la santé de l'économie. Bien sûr, j'entends pas la santé des marchés financiers, mais plutôt la santé de l'économie entendue comme des échanges entre différentes entités qui permettent de créer des richesses sur les territoires et des richesses humaines. Et donc aussi l'alimentation de qualité, finalement, elle passe par un commerce équitable, par une transparence finalement des informations, des échanges tout au long de la filière, par des conditions de travail décentes, et il y a énormément de travail à faire là-dessus dans le système alimentaire, par également une démocratie au travail qui peut être développée. Et finalement, voilà, ce qu'on identifie, c'est que notre vision de l'alimentation durable, c'est celle finalement d'un système alimentaire qui serait reconstruit à partir des principes de l'économie sociale et solidaire, la démocratie, l'ancrage local, les solidarités entre entités, etc. Et aussi, derrière cette idée-là, l'idée que, évidemment, l'alimentation ne peut pas être considérée comme une marchandise comme une autre. Et de nombreux travaux ont essayé de porter sur les enjeux, justement, en anglais, on parle de décommodifier l'alimentation et, du coup, de la considérer comme un droit humain et non comme une marchandise comme les autres. Mais finalement, ces systèmes alimentaires alternatifs, ils sont vertueux, ils ont montré un ensemble d'innovations sociales, innovations organisationnelles, etc., qui sont hyper intéressantes à analyser. Mais le constat qui est fait, c'est qu'évidemment, ça reste une niche. Et en plus, une niche menacée, puisque les acteurs en place s'adaptent, hein, et le système agro-industriel intègre de plus en plus, évidemment, ces nouvelles demandes d'un certain nombre de consommateurs et des rayons produits locaux, l'engagement durable des politiques RSE, l'engagement des fournisseurs, etc., différentes expériences, et aussi, du coup, verrouille aussi un petit peu plus, finalement, les possibilités d'aller vers un changement plus profond du système alimentaire. Et puis, l'autre grand enjeu, et c'est celui peut-être qui nous concerne davantage aujourd'hui, c'est effectivement se rendre compte que dans ces systèmes alimentaires alternatifs, la problématique finalement des inégalités et de l'accès à cette alimentation, elle est peu traitée, voire elle est évacuée. C'est-à-dire que finalement, on a des systèmes alimentaires alternatifs qui s'adressent à des consommateurs souvent en centre-ville, à fort capital social. Je pense que voilà, on a une belle fourchette de personnes concernées autour de la table ce soir. Du coup, on peut s'interroger sur les espaces plus périphériques. Il s'adresse aussi aux producteurs semi-urbains qui, justement, sont à proximité, sont capables d'arriver à servir ces systèmes alimentaires alternatifs. Et puis, il provoque même, en termes d'aménagement de l'espace, un certain phénomène de gentrification alimentaire de certains quartiers. Du coup, finalement, un certain nombre d'auteurs commencent à se dire que ces systèmes alimentaires alternatifs, ils sont aussi excluants ils sont en tout cas créateurs de nouvelles formes d'exclusion. En parallèle, il y a d'autres travaux, et notamment Dominique Paturel, qui est une chercheuse à Montpellier, a beaucoup travaillé sur ces questions-là, qui propose une critique de l'aide alimentaire. Une analyse qui est assez simple, mais qui porte sur un système très complexe, qui est le constat qu'on nourrit finalement les pauvres avec la poubelle des riches. et que finalement, dans l'aide alimentaire, on va trouver principalement des produits qui sont majoritairement toujours issus de cette agro-industrie, qui sont peu diversifiés, et qui du coup viennent entretenir le système alimentaire agro-industriel avec même un marché qui est créé quasiment spécifiquement pour l'aide alimentaire et pour alimenter ces filières. Et également, il ne permet pas aux populations visées de gagner en autonomie, en pouvoir d'action, puisque même s'il y a eu des efforts qui ont été faits à ce niveau-là, et puis de nouvelles formes d'aide alimentaire qui existent et qui permettent de développer davantage de choix des produits, par exemple, on se retrouve quand même dans des situations où effectivement les personnes qui mobilisent l'aide alimentaire ont peu de choix finalement et de pouvoir même de choisir leur aliment. Et du coup, cette double critique finalement de systèmes alimentaires alternatifs qui se retrouvent excluants et puis d'une aide alimentaire qui vient entretenir finalement le phénomène d'insécurité alimentaire et le système alimentaire agro-industriel. Cette double critique, elle a été notamment mise en avant aussi par des mouvements nord-américains qui ont également accolé finalement à ce double constat-là des enjeux aussi de justice environnementale, c'est-à-dire qu'effectivement, dans un certain nombre de lieux, de quartiers, de villes ou autres, on voyait aussi les effets néfastes au niveau environnemental et du coup la nécessité de prendre en main cette question-là. Et né de ce mouvement-là, finalement, un mouvement à la fois militant, puis après de recherche autour de la justice alimentaire. La justice alimentaire, ça peut se définir comme un ensemble finalement d'actions qui cherchent à assurer un partage équitable des bénéfices et des risques concernant les lieux, les produits et l'organisation de la filière. Donc c'est une définition qui est quand même assez large, mais qui a plusieurs intérêts. Déjà l'intérêt de traiter les problématiques dans un système, hein, c'est-à-dire de considérer effectivement que l'ensemble de la filière est source d'asymétrie qui peuvent entraîner des inéquités d'accès. Et puis l'autre question effectivement c'est d'essayer d'identifier qu'est-ce qui est source de ces inéquités en termes de distribution alimentaire et de façon un peu plus structurelle. Et donc c'est un thème qui a été ensuite diffusé notamment par des géographes en France, Julie Le Gall et Camille Hochdes, qui ont amené un certain nombre de chercheurs à travailler sur cette question-là de justice alimentaire et on s'est engouffré dans la brèche, je dirais. Nous, effectivement, l'idée, ça a été d'essayer de voir comment ça peut se traduire aussi en pratique en termes de justice alimentaire. Et puis, du coup, c'est à ce moment-là aussi qu'on s'est rencontré avec Marie-Amandine. J'ai envie de te demander, effectivement, comment finalement ces interactions-là avec les travaux sur la justice alimentaire, ça t'a invité aussi à réfléchir au projet associatif de Belle Bouffe et à le développer. Et puis, bien sûr, à nous le présenter, du coup.
C'est vrai que Belle Bouffe, on est une association qui est née en avril 2019, donc on vient tout juste de fêter nos 3 ans. Donc on est encore une jeune association. Et depuis nos débuts, on se nourrit de travaux issus de la recherche, notamment de la recherche en sciences humaines et sociales, pour essayer de penser notre projet, nos actions et l'impact qu'on va avoir. Et notamment, tu as pu citer Dominique Paturel, et c'est vrai que ça a été, c'est une chercheuse qui est inspirante pour nous et qui a permis vraiment de faire évoluer notre projet associatif, notamment dans la genèse du projet de Belle Bouffe. On s'était vraiment focalisé sur la question de la lutte contre le gaspillage alimentaire. On était deux à avoir porté le projet, à imaginer Belle Bouffe. Donc là, on était en 2018, avant qu'on formalise vraiment le projet associatif. Et puis, au fur et à mesure, justement, de lecture et de rencontres avec des initiatives locales, je pense notamment à VRAC Lyon et à des lectures comme Dominique Paturel, on a petit à petit glissé vers des enjeux qui touchent à la justice alimentaire, notamment parce que tu as aussi cité la question de l'aide alimentaire. Et en fait, souvent, quand on s'intéresse aux questions du gaspillage alimentaire, on voit tout de suite qu'il y a un rapprochement qui se fait entre il y a plein d'invendus, il y a plein de pauvres. Et si on faisait un lien direct entre les pauvres et les invendus alimentaires. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui ne nous allait pas du tout. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on adopte une manière de traiter cet enjeu-là. Et sans avoir un focus, un point d'entrée qui soit la lutte contre le gaspillage alimentaire, mais qui soit plutôt la question de l'accès de tous à une alimentation de qualité digne et durable. Donc voilà, petit à petit, on a fait évoluer notre projet associatif pour avoir cet enjeu de justice alimentaire qui soit traité dans notre projet, mais aussi la transparence alimentaire, donc mieux comprendre ce qui se cache derrière le système alimentaire et derrière nos assiettes. Donc voilà, ça c'était un peu le début du projet. On a lu également certains travaux que tu as pu citer de Camille Hochdez et de Julie Le Gall, exactement, et d'autres travaux issus de la justice alimentaire pour pouvoir construire encore notre projet. On a toujours des questionnements sur la manière d'incarner la justice alimentaire, parce que comme tu as pu le dire aussi, c'est que au final on est des... on a été deux jeunes à monter le projet, deux jeunes blancs issus d'un milieu plutôt privilégié, urbain, où nous on a accès à un certain nombre de choses. Donc quelle légitimité on a aussi à parler de justice alimentaire. Donc ça c'est des choses qui nous questionnent encore maintenant. Et comment rendre notre projet associatif le plus inclusif possible? Parce que quand on parle de justice alimentaire, en fait c'est comment on vient faire exploser, comment on vient lutter contre des inégalités sociales, raciales et sexistes. En fait, c'est vraiment allier lutte antiraciste, féministe et lutte de classe, entre guillemets. Donc ça, c'est des enjeux qui nous travaillent beaucoup et qu'on essaye de petit à petit intégrer dans les actions qu'on va porter. C'est pas facile, donc c'est des choses sur lesquelles on travaille au quotidien, dans les actions qu'on va mener. Donc concrètement, après nous, les activités qu'on mène, ça va s'articuler autour à la fois de démarches d'éducation populaire qu'on va faire auprès du grand public. L'idée derrière, c'est de reprendre le pouvoir sur son alimentation. Et pour ça, on va créer tout un tas d'actions qui vont mobiliser le jeu, le faire soi-même, le faire ensemble, la cuisine, des outils numériques. Et pour nous, ce qui va être vraiment important, c'est que les personnes, elles soient au cœur des démarches, que ça soit elles qui soient actrices, qui puissent décider pour elles-mêmes ce qui leur convient le mieux, qu'elles puissent problématiser ce qui leur arrive et qu'elles puissent construire les solutions qui vont leur être adaptées puisque ça les concerne elles-mêmes. Donc nous, ça va être vraiment l'approche qu'on va avoir quand on intervient. Et après, ça peut autant être sur de la cuisine, sur de s'interroger sur l'offre alimentaire qu'on a dans notre quartier ou tout un tas d'autres choses. Mais voilà, ça va être vraiment notre parti pris. Voilà cet axe de démarche d'éducation populaire. Et en même temps, on essaye d'avoir une approche de recherche à notre échelle, déjà en se disant que la production de connaissances, elle peut sortir des laboratoires, elle peut être portée par des acteurs issus de la société civile. Et puis qu'elles permettent aussi de dire qu'on n'est pas que dans l'action, mais qu'on est dans la réflexion, on teste des choses, on en tire des enseignements, et ça permet d'améliorer ce qu'on fait au quotidien dans nos actions.
Je n'ai plus trop la question. Non, mais c'est parfait. On avait on a vu avec les différentes actions que mène Belle Bouffe, vous essayez de développer finalement le pouvoir d'agir des mangeurs au travers de ces différentes actions. Du coup, effectivement, dans la notion de justice alimentaire, on a une place assez centrale à cette question-là. C'est-à-dire, effectivement, oui, il y a une question, évidemment, d'arriver à produire une alimentation qui soit de qualité, avec toutes les dimensions qu'on a identifiées. Il y a aussi, évidemment, la question de lever un certain nombre de freins à cet accès. ces freins-là, effectivement, ils peuvent être financiers, bien sûr, c'est ceux auxquels on pense en premier lieu en général, mais aussi des freins physiques d'accès, hein, tout simplement. Il y a beaucoup de travaux aujourd'hui sur les paysages alimentaires, hein, la façon dont finalement l'offre alimentaire à proximité, voilà, du mangeur va venir renforcer ou pas sa capacité finalement à changer ses pratiques. Mais il y a aussi d'autres dimensions. Hein. On parle parfois, voilà, de l'accessibilité socioculturelle ou autre. Je pense que vous avez aussi chez Belle Bouffe, voilà, une identification de différentes formes d'accès que vous pouvez travailler. Peut-être tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus. Hein.
Oui, c'est ça. On a essayé de voir un petit peu, quand on parle d'accessibilité, à quelle dimension ça renvoie. Donc, il y a effectivement la question économique dans notre grille de lecture, la question spatiale. Donc, qu'est-ce qu'on a autour de soi de manière qualitative et quantitative. Il y a la question aussi de l'équipement. Quelle infrastructure j'ai à disposition, quels ustensiles j'ai à disposition pour me faire à manger. Il va y avoir aussi ce que tu as pu citer, la dimension plutôt symbolique et sociale de l'alimentation. Dans quelle mesure, en fait, une alimentation biologique, en fait, je peux m'identifier à ça, je la considère comme m'étant adressée ou pas, par exemple. Donc ça, c'est un des freins, en fait, qui va être majeur, hein, la question symbolique. Il va y avoir aussi parfois la question temporelle, aussi, hein, une des, voilà, si on n'a pas de temps. Bon, après, c'est associé à d'autres dimensions, mais la question du temps, elle va être importante. Donc voilà, on a toutes ces dimensions-là et nous, on essaye un peu de traiter une ou plusieurs dimensions quand on intervient. Donc notamment la question symbolique. Donc on questionne beaucoup les personnes on essaye un peu de collecter les perceptions que les personnes peuvent avoir de ce que serait pour elles une alimentation durable, de ce que ce serait pour elles une injustice alimentaire aussi. Et on part souvent de leur représentation pour après pouvoir amener un certain nombre de sujets. Sur la question de la spatialité de l'offre, on essaye de montrer une diversité d'alternatives dans nos temps d'atelier. Je pense, là, il y a des étudiants ce soir. On a beaucoup d'ateliers qu'on fait auprès des étudiants. Donc, on questionne les représentations qu'ont les étudiants de l'alimentation. Et puis, on leur présente un certain nombre de dispositifs qui sont assez variés et qui permettent de lever les freins d'accès à une alimentation de qualité. Et puis ensuite, on établit un plan d'action pour, à partir d'une des initiatives qu'on présente, qu'il leur parle pour qu'ils puissent vraiment se projeter d'un point de vue comportemental dans le fait d'accéder à ce dispositif-là. Donc, imaginez par quelles étapes je vais passer pour y accéder, les ressources que je vais pouvoir mobiliser pour y accéder et les freins que je peux rencontrer pour accéder à cette initiative-là. Et du coup, ces initiatives, elles peuvent se répartir sur le territoire et le but, c'est qu'elles soient proches après de l'étudiant. Et puis, on a des temps de cuisine où là, donc j'ai pas parlé, mais du frein plutôt pratique de savoir-faire, donc comment je vais pouvoir développer aussi une certaine culture culinaire, parce qu'il y a aussi des freins dans le fait de se sentir capable de cuisiner, donc jouer sur ce que nous on va appeler, alors j'ai pas dit, mais je suis psychologue sociale, donc le sentiment d'auto-efficacité, donc comment je vais faire en sorte de me sentir capable de cuisiner en étant dans un temps où on va faire ensemble. Et donc on va travailler sur les savoir-faire. Et puis voilà, essayer de gagner confiance en soi et nous on va beaucoup jouer sur la dimension groupale aussi où on fait ensemble, on prend plaisir à faire ensemble, à être ensemble, à partager un moment de convivialité. Et donc voilà, on va traiter un peu en fonction de nos interventions ces différentes dimensions de l'accessibilité. Donc là, je vous ai présenté un type d'atelier qu'on va pouvoir mener qui va à la fois lier tant de réflexion. Et puis tant de cuisine. Et pour donner un autre exemple qui est assez différent, c'est ce week-end où j'étais avec des personnes qui avaient été mobilisées par le Secours catholique du 8e arrondissement. On était dans le quartier des États-Unis. Et le but, c'était de faire ensemble une balade cartographique. Donc en fait, d'aller dans le quartier des États-Unis et principalement dans le marché, au marché alimentaire des États-Unis. Et aller à la rencontre en fait des forains qui sont présents sur le marché, que ce soit des producteurs ou des revendeurs, et de d'interroger donc les forains sur ce qu'ils ont dans leur stand, ce qu'ils présentent comme alimentation, et puis de s'interroger du coup sur l'offre alimentaire disponible dans le quartier dans lequel on était. Et donc ça, c'était un moment qui était assez fort, en fait, avec des personnes qui vivent la précarité. Et déjà, de pouvoir avoir un autre regard sur l'offre alimentaire qu'on a. Et donc là, il y a dans ces temps-là, et donc on a fait cette balade. Et ensuite, on a eu un temps de débrief. Et on a pu faire ressortir un certain nombre d'éléments avec les personnes participantes, notamment sur les questions d'inégalité spatiale à l'offre alimentaire, parce qu'on s'est dit, mais tiens, il y a un marché aussi dans l'8e à Mon Plaisir, mais là, en fait, avec ce qu'on a vu sur les étalages, on pense qu'il n'y a pas forcément les mêmes aliments qui sont disponibles en termes de qualité, de provenance, enfin voilà, sur différentes dimensions qui auraient pu être données. Les personnes, elles se sont aussi interrogées sur le fait que là, c'est un grand marché, celui des États-Unis, mais c'est un marché où, en fait, on a retrouvé, on peut les compter sur une main, le nombre de producteurs qui sont présents sur le marché. Donc ça, c'est quelque chose qui a interrogé les personnes, mais en même temps, c'est un marché auquel elles peuvent être attachées parce qu'elles s'y rendent et parce qu'elles vont trouver tout un tas de produits qui sont pour elles très accessibles d'un point de vue économique et qui reflètent aussi l'identité du quartier. Donc ce qu'elle disait, voilà, c'est un marché très cosmopolite, on peut trouver plein de personnes différentes, et il y a quelque chose aussi qui était intéressant dans ce qu'elle pouvait dire là ce matin-là. Et donc voilà, donc là c'est des temps aussi où on va essayer de prendre de la distance par rapport à ce qu'on vit, par rapport à ce à quoi on a accès, et s'interroger collectivement sur comment on peut faire évoluer ce paysage alimentaire, cette offre alimentaire auquel on a accès. Et donc là, nous, c'est aussi notre rôle, Belle Bouffe, de pouvoir faire remonter ces ressentis et ces constats après avec les partenaires avec qui on travaille, là en l'occurrence, c'est associé à un projet donc avec la métropole de Lyon, donc de pouvoir donner la parole aussi à des personnes qui ne sont pas mises en visibilité, qui n'ont pas forcément le privilège, en fait, d'être entendues, et que ça puisse se faire aussi quand nous, on intervient sur le terrain et qu'on puisse après mettre en visibilité cette parole-là.
Merci. Et effectivement, sur ces différentes actions pour développer le pouvoir d'agir, on voit qu'il y a plusieurs enjeux, hein, effectivement, déjà se sentir en capacité participer finalement à ce type d'initiative, et puis donner son avis quelque part sur le système alimentaire. Il y a effectivement peut-être la dimension aussi des compétences, de l'estime de soi, et puis aussi peut-être cet aspect quand même de conscience critique dans finalement la prise d'information, la reconnexion aussi quelque part au monde agricole peut-être. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous travaillez aussi, sur essayer de faire en sorte effectivement que les mangeurs arrivent à intégrer finalement les différentes problématiques du système alimentaire?
Oui, c'est des choses sur lesquelles on essaye de travailler. Donc, par exemple, là, avec la reconnexion aux agriculteurs, c'était un peu le cas dans l'exemple que j'ai cité sur les marchés. Et puis après, on a aussi d'autres formats où on peut traiter, en fait, différents enjeux autour de l'alimentation, que ça soit écologique, sanitaire, de transparence, au travers de formats. Donc, par exemple, on travaille beaucoup aussi avec Habitat et Humanisme, et on va dans des lieux qui s'appellent les escales solidaires. Et là, on a pu faire tout un tas d'ateliers avec les passagers. Donc, c'est les personnes qui se rendent aux escales solidaires. Elles sont nommées comme ça. Et là, on fait des ateliers, par exemple, où nous, on va présenter des infographies sur ce que ce serait, d'un point de vue scientifique, une assiette idéale, d'un point de vue environnemental, nutritionnel, par exemple, et social. Et en fait, après, c'est aux personnes elles-mêmes de composer leur propre assiette idéale à partir de différentes infos qu'on peut leur apporter, mais aussi à partir de elles, les marges de manœuvre qu'elles ont, leurs préférences, leurs besoins, enfin, leurs besoins alimentaires, mais qui peuvent être des besoins culturels. Donc voilà, ça va être des choses. On va essayer d'intégrer un certain nombre de dimensions dans ce qu'on va faire, ou d'autres animations. On va s'interroger sur un produit, essayer de le passer à la moulinette de plein d'indicateurs pareil, sociaux, écologiques, économiques et environnementaux, et ensuite en débattre ensemble. Donc on teste plein de formats. On voit aussi ce qui fonctionne le mieux en fonction de ce qu'on a envie de traiter comme enjeu avec les participants.
Et du coup, on en a parlé un petit peu rapidement, mais effectivement, Belle Bouffe, évidemment, c'est une association avec souvent un modèle économique assez hybride et également finalement un travail par projet, avec la nécessité aussi de montrer finalement l'impact de ces actions. On sait que voilà, la question autour de ces enjeux-là, de changement des pratiques alimentaires, la question de la mesure aussi de l'impact, finalement, d'essayer de voir si effectivement le pouvoir d'agir des mangeurs évolue. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que vous mettez en place et puis aussi les difficultés et limites possibles de cette mesure ?
Donc c'est vrai que pour nous, ça va être important de pouvoir mesurer l'impact qu'on a, donc savoir si en fait ce qu'on fait, ça sert à quelque chose. C'est un peu concrètement ça, l'enjeu derrière la mesure d'impact. Donc pour faire une mesure d'impact, déjà, il faut voir ce qu'on a envie de faire, quel changement on veut voir arriver une fois qu'on est intervenu, ce qui permet de construire en fait l'intervention qu'on va mener à partir des objectifs qu'on se fixe. Et ensuite, on se dit, quelle est la méthode la plus adaptée pour voir que ce que j'ai fait, ça a permis de remplir les objectifs que je me suis donné. Donc en fait, tout ce processus-là, ça demande quand même d'avoir un certain nombre de compétences, et ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les associations, alors que la mesure d'impact, elle va être demandée en fait à chaque fois qu'on a un projet à mener et qui s'inscrit dans le cadre d'une demande de subvention. Et puis ça prend beaucoup de temps. Et parce que voilà, faut, en plus de l'action qu'on mène, avoir tout ce temps de construction de la méthodologie, et puis après d'analyse en fait des résultats qui sont produits dans les ateliers. Donc nous, par exemple, on va essayer de voir dans quelle mesure une intervention elle a fait bouger des perceptions, donc la manière dont on va se représenter. Je vais dire n'importe quoi, enfin, par exemple l'alimentation biologique, et puis on va essayer de voir aussi dans quelle mesure ça a permis de faire bouger donner des envies de faire quelque chose, donc des motivations à agir et des intentions comportementales. Et puis quand on le peut, on va essayer de mesurer les comportements, mais alors ça c'est plus complexe, ça suppose de garder un lien dans le temps, enfin en tout cas nous par rapport à ce qu'on fait avec les participants, et de pouvoir les réinterroger et de voir si concrètement, d'un point de vue comportement, ça a pu faire bouger des choses. Et donc voilà, donc là, c'est un peu les différentes choses que nous, on va essayer de mesurer dans les ateliers quand là, on a une approche psychosociale. Et après, on va essayer aussi de mesurer l'impact économique, écologique de certaines de nos interventions en voyant les partenaires auprès de qui on a fait appel, le sourcing de nos produits. Donc voilà, on peut mettre un certain nombre de choses en avant. Mais c'est vrai qu'après, voilà, c'est quelque chose qui prend du temps et qui n'est pas forcément financé non plus au final quand on fait une demande de subvention. Disant que on veut faire telle action parce qu'on sait que ça va apporter quelque chose. Et donc, il y a un peu cette pression parfois à la mesure d'impact. Donc, je trouve dans le cadre de notre projet associatif, ce n'est pas tant problématique que ça, puisqu'on a des ressources en interne pour pouvoir mener ce genre de démarche. Mais par contre, on n'a pas forcément les capacités financières de les mener comme on voudrait les mener pour faire cet atelier, on sait qu'on voulait chercher ça, on a trouvé ça, et voilà ce qu'on peut en dire. Donc ça, c'est des choses qui nous posent question. Et une autre chose aussi qui me pose question, c'est que quand du coup je justifie l'action que je fais et que du coup je réponds, parce que quand vous faites une demande de financement et que c'est une subvention, vous devez justifier que vous avez bien fait l'action et du coup faire un rapport. Et donc, je mets en avant les résultats qu'on fait et je me demande, mais est-ce que c'est vraiment lu et est-ce que ça sert vraiment à quelque chose après, derrière? Est-ce que une commune ou la métropole va se saisir des résultats parce que j'ai mis des choses en avant et que moi je vais pas pouvoir intervenir sur la suite forcément, mais du coup, voilà, c'est aussi des questions que je me pose et du coup de l'utilité parfois qui externe de la mesure d'impact et pas qu'interne pour nous, de se dire que nos actions elles servent à quelque chose. Et donc voilà, c'est vrai qu'il y a vraiment des enjeux, je pense, à travailler, à discuter aussi avec du coup les financeurs publics sur la mesure d'impact et que ça soit pas voilà une injonction à faire, mais sans que derrière ça serve vraiment aussi à quelque chose et qu'on puisse donner les moyens aux initiatives de si on voit que c'est intéressant de le faire, de pouvoir vraiment le faire de manière déjà de manière robuste et puis de manière soutenable pour les structures.
Oui, nous, au niveau de Coactis, on avait aussi travaillé à un moment donné sur un outil d'autodiagnostic. Donc l'idée, effectivement, c'était peut-être de permettre justement aux structures qui revendiquaient faire de l'accès à l'alimentation de qualité pour tous, de pouvoir mieux évaluer, comprendre voilà, leurs points forts, leurs marges de progrès, etc. Et effectivement, on l'avait structuré aussi autour un peu des trois grandes dimensions, on va dire, de la justice alimentaire, hein, donc la capacité évidemment à assurer une alimentation de qualité, à permettre l'accès, hein, donc à lever les différents freins, mais aussi la fameuse troisième dimension qui est davantage la réduction des inégalités structurelles, sur laquelle évidemment il est quand même beaucoup plus délicat pour une structure. Seul d'évaluer un impact sur un enjeu de ce type-là. Effectivement, ce qui est assez classique hein, dans les analyses d'impact, effectivement, c'est d'arriver voilà, à distinguer finalement ce qui relève effectivement uniquement de l'intervention d'une structure et finalement des évolutions qui sont davantage liées à un ensemble d'éléments, un ensemble d'acteurs qui ont eu globalement un impact ensemble. Effectivement, c'est aussi un point important de souligner justement les complémentarités aussi entre les différentes interventions, entre les différentes structures. Et effectivement, le fait aussi évidemment que le pouvoir d'agir du mangeur, il est limité à l'échelle individuelle du mangeur et que il y a d'autres échelles qui doivent être mises en place, plus collectives, pour à la fois évidemment favoriser ces pratiques, lever un certain nombre aussi de verrous au changement du système alimentaire. Et arriver effectivement à cette logique de transition vers un système alimentaire durable et juste. Voilà, il y a plusieurs initiatives qui cherchent effectivement, ou en tout cas à prôner effectivement une dimension plus collective aussi de ce pouvoir d'agir des mangeurs. Je ne sais pas si du coup, ou tu veux peut-être évoquer Stéphanie aussi votre logique de mesure d'impact, non, pour conclure.
Merci. Donc effectivement, on a au sein de la charte Ralim également un projet d'accessibilité à une alimentation de qualité qui est centré sur les étudiants. Avec la ville de Lyon. Et donc, je rejoins tout à fait les commentaires de Marie-Amandine. C'est vrai qu'on a besoin, pour monter des projets, des actions, de recherche-action sur le terrain, on a le cœur du problème, c'est souvent les financements. Donc, ces projets ils vont être financés par la ville de Lyon, là, en l'occurrence, c'est financé par la ville de Lyon, la métropole et la DRAF, le projet qui porte sur les étudiants. Évidemment, on va être sur des mesures d'impact assez similaires, donc avec une approche complémentaire aussi qualitative, qui peut être aussi très très intéressante en termes de, on va faire des entretiens où on va être plus, ce que tu disais, peut-être plus sur les représentations, voir ici il y a eu des évolutions et comment le dispositif est perçu. Alors là, dans cette étude que j'évoque, il y a plusieurs dispositifs qui sont testés. Il y en a un avec l'association La Gonette, donc qui est la monnaie locale lyonnaise, où des étudiants vont recevoir une aide financière tous les mois pendant un an. Sous la forme de Gonette. On va avoir un accompagnement, un autre dispositif qui va prendre la forme d'un accompagnement plus humain avec l'association de l'ARDAB, l'association des producteurs biologiques du Rhône et de la Loire, donc avec des réunions d'information, des échanges, des visites de ferme, des ateliers de cuisine, ce genre d'action. On est en train de tester donc tous ces dispositifs. Un autre qui est une application gamifiée. donc une, sous la forme de conseils, de recettes, conseils destinés à des étudiants et donc sous la forme de, un peu ludique du jeu. L'idée étant effectivement de vérifier quels sont les dispositifs qui seraient les plus pertinents et donc les plus efficaces à mettre en place. Donc on va avoir le même genre de mesures d'impact hein, qui vont être est-ce que les perceptions ont évolué, est-ce que les comportements évoluent. Donc là on a par exemple pour les, on va pouvoir mesurer, on a la chance de pouvoir mesurer des comportements concrets par exemple avec la gonnette, des achats concrets en termes d'achats. Est-ce que les étudiants ont acheté plus d'aliments bio par exemple ou pas, dans les, est-ce qu'ils sont plus allés dans les commerces bio ou pas. Donc on va avoir des mesures effectivement d'intention, de comportement beaucoup, donc on va être assez, c'est assez similaire et c'est vrai que se pose la question de comment s'empare de nos résultats ensuite les politiques publiques finalement parce que ce qu'il faut bien comprendre c'est que ce qu'on a entre nos mains ce sont des actions et la mesure de ces des impacts de ces actions. Mais derrière, finalement, c'est souvent à but expérimental. Enfin, nous, en tant que chercheurs, c'est toujours à but expérimental. Et c'est vrai que c'est une vraie question derrière de comment on pérennise tout ça, comment on fait que finalement, c'est tout un système et au niveau collectif, comment on change. Donc, il y a, et je trouve que vous l'avez vraiment bien montré ce soir, et je vous remercie encore hein, pour cette intervention qui était vraiment intéressante, où on voit bien qu'il y a plein de choses qui sont faites au niveau individuel et c'est important de faire évoluer les, le consommateur, le mangeur, pardon, plutôt, et le citoyen, hein, et aussi au niveau plus collectif où, où ça va rentrer ensuite dans des politiques publiques. Donc, typiquement, on répond à des appels à projets à destination aussi, enfin, qui vont être financés, mais par des collectivités territoriales pour améliorer les politiques publiques de demain. Donc c'est vrai que souvent, moi, c'est toujours la question qu'on me pose quand je parle de ce projet. Hein, à chaque fois, c'est mais du coup, est-ce que ça va être amené à être développé au niveau. Enfin, parce que là, l'expérimentation dure un an, donc c'est et après. La question, c'est après. Donc ma réponse est souvent bah, et après, ça va dépendre de ce que les politiques publiques décident de faire après, effectivement. Je ne sais pas si vous voulez encore compléter avec... on va peut-être... Maintenant, on va passer un moment d'échange. Merci encore. Peut-être Maxime, tu veux peut-être dire un petit mot, faire la transition. Maxime qui est... Bah, voilà. Maxime qui est responsable de la chaire Tralim. Co-responsable.
Je vais peut-être pas refaire mon laïus sur la chaire, parce que j'ai entendu en arrivant que tu étais en train de, que tu avais donné quelques... Ah bah Hélène s'est chargée. Je suis désolé Hélène d'être arrivée en retard. Visiblement venir des Écully, c'est venir de l'autre bout de la France, pas venir ici. J'ai battu mon record de Écully Lyon Centre. Donc merci beaucoup déjà pour votre présence et votre présentation. J'avais deux questions. Je lance les deux, comme ça vous pouvez répondre soit d'affilée, soit en esquiver une en répondant à l'autre. C'était tout d'abord sur la question de la diversité culturelle. Vous l'avez évoqué rapidement, mais c'est vrai que dès qu'on s'intéresse à des populations qui peuvent avoir des difficultés financières, dès qu'on va dans des quartiers politiques de la ville, la diversité culturelle, elle frappe, elle est beaucoup plus forte que dans d'autres quartiers. Et sur l'alimentation, c'est un des moments où ça se voit le plus, puisque s'il y a une chose qui est très fortement liée à nos cultures, je mets au pluriel parce que chaque individu est inclus dans plein de cercles culturels différents qui va mobiliser à différents moments, donc il n'y a pas d'essentialisation, hein, c'est vraiment, mais qui vont jouer. Donc, et ça, c'est un élément que, dans ma petite expérience, je vois très peu pris en compte dans les actions sociales autour de l'alimentation qui sont menées, dans les actions d'accompagnement. Donc je voulais savoir si vous arrivez à le prendre en compte, si oui, sous quelle forme, est-ce que c'est plutôt un frein, plutôt un levier potentiel pour faire évoluer les pratiques alimentaires. Et ma deuxième question, c'était pour aller un petit peu plus loin sur la question de l'évaluation. Vous avez dit que vous utilisiez, déjà vous êtes beaucoup appuyé sur des lectures et les échanges et donc sur les produits de la recherche pour construire les actions. Ça, c'est déjà très intéressant. Et vous avez dit que vous utilisiez plutôt des ressources en interne. Donc, je vais savoir quel type de ressources, quel type de profil, en fait. Ça, je suis curieux de savoir. Et puis, quelle méthode, c'est-à-dire comment vous évaluez les actions. Sachant que même les chercheurs sont confrontés au même problème souvent, quand on a des financements aussi, pareil, il y a toujours une partie impact à rédiger, à expliquer. Même en tant que chercheur, des fois, on est bien. On dit, on veut produire de la connaissance, mais l'impact, on ne sait pas trop comment le mesurer. Donc, voilà, et ça vaut aussi côté recherche, du coup, aussi sur ces questions de, à la fois culturelles et mesures d'impact, s'il y a des éléments complémentaires. Donc, la question, c'est pour tout le monde.
Du coup, donc, côté Belle Bouffe, sur la question de la diversité culturelle, nous, on essaye d'intégrer ça pleinement dans nos animations. Donc, par exemple, dans les ateliers cuisine, on va proposer un certain nombre de recettes, mais après, les personnes, elles peuvent vraiment les adapter par rapport, elles, à leur pratique culinaire. Surtout parce qu'en fait, on se rend compte que parfois, on intervient dans des contextes où, en fait, les personnes, elles sont largement plus compétentes que nous à cuisiner. Parce que nous, on a pas de chef. Hein, et c'est pas, d'ailleurs, le message qu'on souhaite porter, c'est de se dire qu'en fait, on est tous en capacité de cuisiner. On n'a pas besoin d'être un grand chef pour se faire à manger. Mais en tout cas, voilà, dans certains des ateliers où parfois on est avec des personnes, notamment des femmes qui vivent des situations de grande précarité et qui peuvent être nouvellement arrivées sur le territoire, on voit qu'elles sont largement plus capables que nous de faire des recettes savoureuses, etc. Et du coup, là, c'est plus de mettre vraiment en avant leur savoir-faire. Et nous, il y a vraiment cet enjeu de mise en visibilité de ce qui est déjà présent, plutôt que dire, ah ben non, pourquoi tu fais comme ça, pourquoi tu mets tel ingrédient, ça va pas du tout. Donc ça, c'est vraiment pas l'approche qu'on va avoir. Par contre, on va mettre en débat la question, par exemple, de la saisonnalité dans ces temps-là. Et de voir aussi parfois comment on peut concilier des pratiques alimentaires qui s'inscrivent dans un héritage familial, culturel, avec aussi d'autres dimensions qu'on va pouvoir nous traiter en atelier et de réfléchir ensemble. Peut-être qu'un plat, on peut à un moment donné modifier un aliment pour ce mois-ci, mais qu'on pourra le retrouver plus tard dans l'assiette. Donc voilà, on essaye un peu de concilier ça. Après, sur la dimension plus urbaine, on s'interroge notamment avec des jeunes à Vénissieux sur ce qui existe dans le quartier. Et là, pour le coup, c'est plus le fait qu'il n'y ait pas tant de diversité que ça de l'offre alimentaire qui est relevée, où même les jeunes eux-mêmes vont se dire il n'y a que des, en gros, que du stacking, que des petites échoppes pour se procurer à manger. Et donc, ça va être relevé en fait par les jeunes eux-mêmes. On a souvent un a priori des habitants des quartiers de la politique de la ville, comme quoi ils n'auraient aucune conscience de certains enjeux écologiques, sociaux, alors que nous, dès qu'on y va et qu'on interroge en fait les personnes et qu'on les interroge sur le constat qu'elles font de l'alimentation qu'il y a dans leur ville, on voit tout de suite qu'en fait ils ont un diagnostic très clair de ce qui ne va pas et ce qui après peut être mis en visibilité dans des articles et dans des travaux de chercheurs. Et en tout cas, enfin voilà, c'était pour faire le lien avec la question des quartiers. Et puis après, sur la partie évaluation, donc d'une part, en fait, je suis psychologue sociale, donc là, moi, j'essaye de moi-même utiliser mes compétences, mes approches pour créer les démarches d'évaluation, d'évaluation plutôt psychosociale des actions, que ça soit des approches qualitatives, donc à la fin d'intervention, il peut y avoir des temps de discussion où nous on se dit qu'on a envie de traiter tel et tel enjeu et après on prend note et on analyse ce que les personnes ont dit, que des petits questionnaires qu'on fait passer à la fin d'un atelier par exemple, donc des outils plus quantitatifs. Et puis après, on a aussi dans l'équipe des compétences en design, donc on essaye de croiser des approches et d'avoir une approche qui soit plus transdisciplinaire en mêlant design et sciences humaines et sociales autant pour créer les actions qu'après pour voir les effets qu'elles peuvent produire. Et donc ça, c'est hyper intéressant d'avoir cette approche en design, parce que parfois moi je suis tentée de faire des très grands questionnaires où je pose beaucoup de questions ou des choses, et là on essaye de simplifier au maximum et de les rendre même de travailler la forme pour que ça soit aussi plus souple et garder la robustesse en fait de l'outil, mais en même temps que ça puisse être, que ça puisse se faire autrement. On utilise aussi des approches plus en fait d'interroger les personnes sans passer par des outils traditionnels de questionnaire, mais par exemple on va utiliser en début d'un atelier un brise-glace où on va poser en fait un certain nombre de questions qui vont traiter des représentations, des pratiques, mais ça peut être de se dire ben voilà, vous allez, je vous pose telle question, le camp du oui se met là-bas ou je sais pas là-bas, peut-être un peu beaucoup. Donc on va jouer avec les corps et l'espace. Et en fait, nous, ça va nous permettre de collecter de la donnée. Il peut se passer la même chose à la fin d'un atelier. Et en fait, comme ça, on arrive à mesurer l'impact, mais sans passer par un outil qui est plutôt traditionnel qu'on va apprendre voilà, à la fac. Et on va dire, ben non, il faut faire des focus group, il faut faire des questionnaires, il faut faire des entretiens semi-directifs, individuels ou autres. Et donc, on essaye, nous, de créer un peu des outils différents. Qui soient en fait qu'on puisse plus intégrer à nos formats d'atelier, parce que sinon ça peut être très lourd en fait si à chaque fois on a un temps hyper long pour collecter de la donnée. Et donc voilà, on teste un peu plein de formats aussi pendant nos temps d'atelier, et ça aide du coup d'avoir des compétences aussi en design, et puis des personnes aussi qui sont vraiment formées à l'animation, à des démarches d'éducation populaire.
Peut-être juste sur la question autour de la diversité culturelle, effectivement, dans les travaux, c'est abordé souvent sur l'idée dans la justice alimentaire d'être en mesure effectivement de fournir finalement une alimentation culturellement appropriée et donc d'intégrer aussi effectivement dans cette idée voilà de participation. Des mangeurs au choix par exemple de référencement de produits dans une structure ou des éléments de ce type. Donc il y a cette dimension là qui existe, et c'est vrai que dans les analyses en tout cas des organisations nous qu'on a étudiées, c'est vraiment un point assez important de tension possible entre les différentes dimensions de la justice alimentaire. Où effectivement, voilà, une structure qui va vouloir mettre l'accent sur le fait de proposer une alimentation culturellement appropriée, et donc finalement de pouvoir intégrer un certain nombre d'attentes assez diverses finalement des mangeurs, ça va souvent rentrer en tension avec d'autres dimensions, effectivement, comme l'impact environnemental, la production ou autre. Voilà, il y a un certain nombre de questions. Par exemple, un supermarché coopératif qui peut se demander est-ce que je référence de l'huile de palme ou pas de l'huile de palme, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre voilà, des adhérents qui réclament ce type de produit. Donc, ça fait partie des questions qui sont assez importantes et qui aussi expliquent ce que c'est cette dimension niche des systèmes alimentaires alternatifs qui peuvent peiner à s'ouvrir socialement, mais aussi culturellement sur finalement leur offre. Donc en tout cas, oui, c'est un point sur lequel il y a aussi dans les pratiques, effectivement, et l'exemple de ce qui est mis en place au niveau de l'association Belle Bouffe le montre bien, beaucoup de difficultés à ne pas recréer de nouvelles normes, de nouvelles injonctions, etc., vers certaines pratiques. Et effectivement, ce sont des pratiques qui peuvent être relativement délicates à mettre en place. Toutes les actions de sensibilisation à l'alimentation durable peuvent aussi, recréer une nouvelle norme. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, peut-être ? Partage.
Qu'est-ce qui est le plus dur à faire passer comme message et qu'est-ce qui est le plus simple en général? Vous parliez de la saisonnalité, de la qualité, de la fraîcheur, l'aspect local du produit. Qu'est-ce qui, d'un coup, arrive à convaincre les gens et qu'est-ce qui vraiment demande à sortir les avirons pour pouvoir parvenir à des résultats?
Pas facile comme question. Déjà, ce qui va Enfin, je ne sais pas si nous, c'est pas forcément de convaincre les gens quand on intervient, mais c'est de montrer un peu le champ des possibles qu'il peut y avoir. Après, c'est sûr qu'il y a un certain engouement sur le côté local, en fait, et des circuits courts. Là, je fais plutôt référence à on avait mené une recherche participative pendant le confinement sur ce qui s'appelait manger local en temps de confinement, enfin qu'on a appelé manger local en temps de confinement, et qu'on a mené avec des habitants qui avaient envie de s'interroger un peu sur ce qui se jouait pendant ce contexte de crise sanitaire et où on était enfermés. Et là, on demandait, en fait, donc là c'était des entretiens, on demandait ce qui était le plus important pour les personnes quand elles se procuraient à manger. Et c'est vrai qu'il y a la question du local qui était souvent plus mise en avant que d'autres dimensions, par exemple des aspects plus biologiques de l'alimentation, par exemple. Mais ça, après, on peut aussi supposer que le contexte du Covid avait vraiment favorisé ça, puisqu'on était dans un moment où le local avait une certaine force, en fait, où on s'interrogeait sur la délocalisation d'un certain nombre de choses qui faisait que, qu'on était dans un système mondialisé qui faisait que on en arrivait là où on en arrivait. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment, je pense, quelque chose qui interpelle les participants sur le côté local, parce que c'est aussi psychologiquement quelque chose qui nous paraît plus proche, puisqu'on peut, en fait, quand c'est local, on sait de quelle zone on parle, même si en fait le local, ça peut vouloir dire pour des personnes la France entière, et pour d'autres, ça veut dire la métropole, enfin Lyon. Mais donc c'est quelque chose de psychologiquement plus proche de soi, qui renvoie aussi à une relation avec un territoire, avec une personne. Donc c'est vrai que ça parle quand même à certains profils, en fait, de mangeurs. Mais en fait, nous, voilà, ce qu'on voit, c'est qu'il y a différents profils, il y a différentes trajectoires alimentaires, et qu'il y a des personnes qui vont être plus sensibles à la dimension sanitaire. Donc le but, c'est de prendre soin de soi, de pas incorporer n'importe quoi. Et donc là, nous, on doit faire attention à, ok, là, c'est la santé qu'il faut mettre en avant pour, si on veut faire bouger des pratiques. Il peut y avoir l'aspect économique. Donc là, quand on est sur la santé, ou le côté budget, on sait que les personnes, elles sont plutôt orientées vers elles, vers des choses qui sont proches d'elles. Après, donc, il y a la question du local ou de l'écologique qui renvoie à des choses peut-être parfois plus larges, plus abstraites. Et donc, nous, on essaie un peu de voir les motivations, sur quoi elles vont se cristalliser. Est-ce que ça va être plutôt sur des choses proches des personnes, plutôt plus globales, pour pouvoir après adapter nos discours. Donc voilà, j'ai envie de dire qu'en fait, il n'y a pas une manière de convaincre, mais en fait, il faut adapter les interventions par rapport au public qu'on a en face de soi. Et après, on a aussi des méthodes où on va essayer de faire en sorte que les personnes, elles objectivent elles-mêmes des choses. Donc en fait, on va prendre par exemple un produit industriel alimentaire, et on va leur demander de collecter plein d'infos sur ce produit, sur plein de dimensions. Et c'est elles-mêmes après qui vont en sortir un certain nombre de constats. Et nous, on fait en sorte que justement, les dimensions, il y a à la fois des choses sanitaires, économiques, sociales, écologiques. Comme ça, on se dit, en faisant toutes les dimensions, il y en a bien une qui va parler aussi à la personne. Et comme c'est elle-même qui va chercher de l'info, qui du coup en établit elle-même des constats, elle se donne aussi ses motivations pour se dire ça me va, ça me va pas, du coup j'ai envie de changer ça ou pas. Je sais pas si ça répond bien à la question, mais...
Si, ça répond bien, merci. Ce qui peut aussi nous permettre de savoir ce qui sensibilise les gens, c'est aussi l'approche sensible, je pense. L'approche intellectuelle, elle est scalée, elle touche certaines personnes, elle ne touche pas forcément tout le monde. Puis certains ont des enjeux qui les touchent plus que d'autres. En revanche, je pense que l'approche sensible par le goût, par la dégustation, peut permettre de recueillir des avis sur ce qu'ils pensent finalement d'une fraise cueillie donc de saison, de plein champ, et en plus une variété plutôt goûteuse. Je pense qu'on peut permettre aux gens d'entrer dans l'univers du fruit, et donc vraiment de s'intéresser vraiment à l'origine de la culture de ce produit, de comment il est cultivé, s'il respecte l'environnement, comment il est acheminé et puis par qui il est produit. Je pense que c'est... Alors l'approche intellectuelle est nécessaire. Je pense que l'approche sensible aussi est une donnée qu'il faut, à mon avis, faire valoir dans ce genre d'atelier. Mais je pense que enfin, vous le faites de toute façon par les ateliers cuisine que vous organisez. Mais je voulais avoir votre avis sur justement cette place de l'approche sensible.
Oui, nous, on part du principe qu'on fait et c'est en faisant qu'on va en fait aussi développer plein de choses. Et ça passe beaucoup par du coup le plaisir et par le groupe. Parce que là, quand on intervient, donc c'est dans des contextes au final groupaux où là, il y a plusieurs personnes qui sont ensemble et qui vont faire ensemble. Ça passe vraiment par cette dimension collective aussi, ces temps-là, et par le côté effectivement émotionnel, prendre plaisir à cuisiner ensemble, des choses qu'on n'a pas forcément aussi l'habitude de faire. Et le fait de faire et d'être dans du concret, ça c'est sûr que ça aide beaucoup. Donc on ne fait pas de la théorie, on explique pendant 3 heures qu'il vaut mieux manger un produit qui est local. C'est, on a des produits qui sont là, proposés, et on va cuisiner avec. Et on peut imaginer ensemble des recettes, on peut imaginer plein de choses avec, mais on va le faire ensemble, et après on va partager le repas ensemble. Et c'est vrai que ça passe beaucoup par cette dimension collective et de plaisir quand on est sur des ateliers cuisine, par exemple. Et puis par rapport aux marches là, que j'ai évoquées, donc celles que j'ai pu faire samedi, on avait vraiment des questions après avec les gens sur leur ressenti, de voir bah, qu'est-ce qu'on ressent, d'un point de vue de mes émotions, quand je déambule, ce qui se passe en moi, et ce que ça révèle aussi du coup de ce à quoi j'ai accès, de ce qui se passe. Et c'est vrai que c'est important d'avoir cette dimension émotionnelle aussi dans les interventions.
Bonsoir. J'avais quelques questions. Vous avez parlé de manger local en temps de confinement et j'ai cru comprendre que après le confinement, les personnes n'ont plus mangé local et se sont rabattues sur les supermarchés. Comment vous pourriez l'expliquer ? Autre question, quelles sont les structures auprès de qui vous prenez contact pour mener les ateliers et les expérimentations en local? Et ensuite, quelles sont les motivations des participants en fait? Comment vous présentez vos ateliers pour inciter les gens à participer à ces ateliers? Est-ce que vous arrivez à toucher des personnes qui ne s'intéressent finalement pas du tout à l'alimentation? Qui, par exemple, je pense à. Bon, c'est peut-être une fausse idée, mais par exemple, j'imagine que ceux qui vont manger au McDo ne sont pas forcément des gens qui aiment cuisiner, etc., et qui ne vont peut-être pas aller dans ce genre d'atelier. Je ne sais pas, c'est peut-être un préjugé qui est. Voilà. Est-ce que tout à l'heure, vous avez évoqué que vous faisiez un peu des analyses de vos ateliers, de vos expérimentations? Est-ce que vous les avez rendues visibles? Est-ce qu'elles sont publiques sur votre site internet pour qu'on puisse éventuellement les consulter, s'en inspirer? Voilà. Et aussi, quel est votre lien avec VRAC? Désolée, une belle liste. Et votre lien avec VRAC que j'ai découvert récemment et que je trouve être une belle, un beau projet, qui n'est pas récent, mais en tout cas voilà, qui se développe petit à petit sur Lyon.
Peut-être juste pour la première question, comme ça. Parce que pour la première question, effectivement, c'est vrai que c'est un constat assez partagé des structures qui font, que ce soit du circuit court ou même du bio ou autre, qui constatent effectivement des baisses des ventes et des baisses des ventes qui sont même inférieures à celles de avant le confinement. Et effectivement, il y a beaucoup d'interrogations sur pourquoi ces difficultés-là. Donc effectivement, c'est pas un sujet sur lequel, entre guillemets, on fait une analyse fine, mais c'est vrai que je pense qu'il y a aussi cet effet, effectivement, peut-être de système alimentaire alternatif qui reste dans une niche, et la niche qui grandit quelque part. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a de plus en plus d'acteurs qui sont arrivés aussi, qui se sont lancés dans ce domaine-là. Et du coup, c'est vrai que pour les acteurs historiques, voilà, qui sont lancés il y a une dizaine d'années, ça devient un peu difficile même de garder leur niveau d'activité du départ. Et il y a aussi effectivement les acteurs de la distribution, on va dire classique, qui essaient d'offrir des produits avec un certain nombre d'arguments bénéfiques ou autres qui peuvent un peu profiter de cet effet-là. Mais en tout cas, c'est un sujet, je pense, qui est vraiment très discuté entre les acteurs des systèmes alimentaires alternatifs qui s'inquiètent beaucoup de cet effet-là, effectivement, de diminution et même inférieur à ce qu'il y avait avant le confinement. Voilà, peut-être aussi, nous, c'est vrai qu'on a constaté une explosion quoi, des acteurs depuis une quinzaine d'années. Et effectivement, voilà, peut-être il y a cet effet-là aussi, en fait, les consommateurs le segment de consommateurs qui ne grossit pas et de plus en plus, tout simplement, d'acteurs qui se mettent sur ce créneau-là. Donc, voilà, c'est un peu... Alors, le paysage alimentaire évolue, alors pas dans tous les quartiers. mais en tout cas, effectivement, il devient de plus en plus l'offre alimentaire de qualité devient de plus en plus importante. D'ailleurs, je pense que vous avez fait un outil en ligne, etc., pour arriver à l'identifier. C'est vrai que voilà, on voit clairement que ça explose, mais du coup, à l'échelle de chaque organisation, ça se traduit pas forcément par d'excellents résultats. Et voilà, effectivement, VRAC, c'est une structure qui est souvent montrée en exemple sur plusieurs dimensions. Hein. Tout à l'heure, on a parlé aussi de l'aspect, effectivement, la façon dont les consommateurs peuvent être sensibilisés. Eux, clairement, ils étaient véritablement sur la dimension goût, plaisir, etc., bien avant l'argumentation plus politique ou intellectuelle qui vient dans un deuxième temps.
Répondre à la suite. Du coup, par rapport à donc auprès de qui, avec qui on travaille, je crois que c'était la deuxième question. Donc nous, ça va être assez varié. Donc j'ai pu citer notamment Habitat Humanisme. Donc on travaille beaucoup avec Habitat Humanisme. Et donc là, ça peut être soit avec donc les personnes qui sont usagères, on va dire des escales solidaires. Donc c'est assez varié dans les profils, mais il y a beaucoup d'hommes qui peuvent être assez âgés en fait, qui sont là. Donc c'est pas forcément les publics qu'on va avoir dans d'autres contextes. On a plutôt souvent des femmes. Et on a aussi avec Habitat Humanisme, parfois on intervient par exemple au village mobile. Donc c'est des centres d'hébergement d'urgence. Donc voilà, ça c'est des exemples. On peut intervenir auprès de centres sociaux. On intervient, comme je disais, beaucoup auprès d'étudiants. Donc on avait cette année un partenariat avec le CROUS de Lyon. On est intervenu dans différentes résidences étudiantes pour pouvoir faire l'atelier que j'ai pu présenter. Donc après, voilà, c'est assez varié en fait les acteurs avec qui on va travailler. Il y avait donc quelles sont les motivations des participants à venir. Donc ça va dépendre. Mais c'est vrai que souvent, en fait, donc notamment parce qu'on peut être avec des personnes en situation de grande précarité, il y a un isolement social et c'est avant tout déjà de sortir de son isolement et de se retrouver avec d'autres personnes. Donc ça c'est vrai que, par exemple, dans les escales, c'est ce qui se passe sur les motivations à venir dans les premiers ateliers, parce qu'après, nous, on essaye de faire des cycles pour ne pas intervenir juste une fois, parce qu'on trouve que ça ne sert pas trop, des fois, de faire un one-shot un temps. Et là, c'est vrai qu'au début, les motivations à venir, c'était vraiment plutôt sur l'aspect social, être en lien, rencontrer du monde. Et puis, petit à petit, nous, on essaye d'intégrer des enjeux autour de la transition alimentaire. Et là, on voit qu'il y a d'autres motivations qui vont se mettre en place pour venir dans les temps d'atelier. Quand on avait fait aussi l'année dernière des ateliers auprès d'étudiants, il y avait le fait que pareil, il y avait eu un isolement et du coup c'était de rencontrer des personnes. Mais après, ça peut être aussi d'avoir de nouvelles idées pour se faire à manger, parce que voilà, comment je peux développer ma créativité. Donc ça, c'est vrai que ça peut revenir pas mal. Et puis Et puis, du coup, on a aussi des personnes, donc je citais tout à l'heure des ateliers qu'on fait à Vénissieux, où là, en fait, on a des publics où ils sont pas forcément, ils viennent pas forcément de, je sais pas comment formuler, de leur propre volonté, entre guillemets, ils sont intégrés dans un dispositif. Et dans le cadre de ce dispositif-là, à un moment donné, ils vont être en atelier avec nous. Donc, et ce qui nous permet de toucher des personnes qu'on ne toucherait pas si on disait juste « Ah, il y a un atelier », et ça ne leur parlerait pas forcément. Et donc là, ça permet pour nous de capter des publics qu'on aurait du mal à avoir. Et après, en fait, ça rejoint aussi la question que vous aviez tout à l'heure de autour de, voilà, bah, selon les publics, comment on peut les sensibiliser, peut-être qu'il y en a, voilà, ceux qui vont à McDo, ils ne viendraient pas. Bah, en fait, déjà, je pense qu'il y a différentes logiques qui peuvent cohabiter, on n'est pas des êtres rationnels, on n'est pas non plus dans la pureté militante où tout de A à Z est parfait et répond à des valeurs qu'on porte. Et donc voilà, donc des fois, il y a même, sans forcément aller dans les quartiers de la politique de la ville, hein, des personnes qui vont avoir des comportements qui vont être contradictoires, mais c'est pas grave, on est des êtres humains et ça fait partie du jeu. Et du coup, donc là, avec les jeunes, alors on va pas leur demander leur motivation à venir, parce que bon, ils sont un peu obligés, entre guillemets. Mais par contre, après, on voit que les temps de cuisine, c'est vraiment des choses qui leur parlent et qui leur plaisent. Donc quand on fait nos petites mesures d'impact, notamment là, quand aussi, du coup, ça permet aussi de faire venir des jeunes hommes dans ces ateliers-là. Ce qu'il n'y a pas quand on fait des ateliers spontanés, souvent des femmes, hein, qui viennent. Et du coup, bah, pour certains, c'est la première fois en fait qu'ils cuisinent, ou enfin en tout cas ils cuisinent très peu. Et en fait, ils découvrent qu'ils peuvent prendre plaisir à cuisiner, que ça fait pas si peur que ça de cuisiner. Donc dans ces cas-là, on se dit bon, c'est bien de... on se dit que là il y a quand même un petit impact quand on vient, même si on n'intervient pas beaucoup de fois, donc ça mériterait d'avoir des cycles plus importants, mais. Mais voilà, c'est toujours ça de fait. Oui, ah oui, et on est intervenu, oui, auprès de lycéens aussi dans le cadre du dispositif Pop Science, donc qui est porté par l'Université de Lyon, donc pour faire de la médiation scientifique dans des établissements scolaires. Donc là, c'est pareil, c'est des groupes de jeunes qui, je crois qu'ils sont quand même volontaires pour participer à la démarche Pop Science, mais ils sont encouragés par leurs profs, et ça nous permet d'être en lien avec des lycéens, nous on n'est pas forcément en lien avec, et donc là d'être en lien avec d'autres publics et de pouvoir aborder des enjeux qui ne traitent pas en cours dans un cadre plus conventionnel, et donc du coup de pouvoir s'ouvrir à d'autres thématiques quand on est jeune. Et puis pour les mesures d'impact, enfin ce qu'il y a, donc là on a un site internet, mais nous sommes en train un peu de revoir le site parce qu'il n'est pas très mis à jour, mais normalement d'ici quelques semaines, mois, il y aura un certain nombre d'infos présentes. Mais en tout cas, il y a quand même dans la partie actu du site certains comptes rendus d'animation qu'on a pu faire, où là à chaque fois on peut retrouver un certain nombre d'infos sur ce que ça a donné. Donc, pour l'instant, il y a dans la partie actu et dans la partie projet. Mais voilà, on est en train un peu de remanier notre site, donc ça va bouger. J'espère qu'on arrivera à mettre plus à jour les contenus, parce que ça prend quand même du temps après à mettre en forme tout ça. Mais en tout cas, voilà, il y a un certain nombre de choses qu'on peut retrouver déjà sur le site internet.
Merci beaucoup pour ces échanges. J'avais moi un certain nombre de questions, notamment. Je sens bien la racine design thinking, créativité, auto-efficacité. Donc, je vois bien l'origine et la méthode qui est mise en œuvre. Ça, je le sens bien. Après. Je me posais la question, effectivement, un peu de la même manière sur le recrutement, en fait. Est-ce qu'on ne peut pas avoir des risques au recrutement? Comment on choisit ou on ne choisit pas? Je me posais aussi la question des financements. Est-ce que c'est donc vous dites que vous êtes une association, c'est des financements par la ville, est-ce que vous, ou pas, ou autre? Enfin, du coup, je m'interrogeais sur ça, et puis sur, en fait, éventuellement aussi, de possibles biais du novice, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte qu'on a un problème alimentaire parce que c'est
hors de question, mais vous évoquiez le fait que les personnes se rendent bien compte des problématiques. Du coup, c'est moi, j'arrivais pas très bien à situer le problème. Est-ce qu'on sait que c'est pas bien ce qu'on mange, mais on le fait quand même parce que c'est pratique, c'est proche, etc. Ou est-ce qu'on ne se rend même pas compte de la difficulté? Donc ça, c'était, j'arrivais pas à situer le curseur du problème. Est-ce que c'est un problème de disponibilité ou, voilà. Et puis, ça m'a vraiment, votre approche m'a vraiment fait penser à Make Sense, les Disco Soup. Est-ce que vous ne travaillez peut-être pas du tout avec eux? Donc vous ne les connaissez peut-être pas. Je pense qu'il faut que vous regardiez. Non, ça vous parle. Ouais. Non, vous ne travaillez pas avec eux. Parce que je pense qu'en fait, dans l'esprit, c'est vraiment la même approche. Design thinking, créativité, empowerment, tout le même. Et donc, j'ai l'impression qu'en tout cas, il y a une dynamique qui pourrait être intéressante. Enfin, en tout cas, voilà. De ce que j'ai vu avec eux, ça semblait chouette. C'était juste ça. Je vois qu'il y a des publics variés, mais je me posais la question des financements, du coup, parce que je pense que ça peut jouer sur comment, en fait, le but que j'avais, c'était de me dire, est-ce que dans une démarche entrepreneuriale, est-ce que c'est scalable? Comment est-ce qu'on arrive à étendre l'impact? Est-ce qu'il faut passer par de l'éducation des très très jeunes, enfin, là où tout le monde va à l'école? Parce que quand on est sur de l'étudiant, c'est déjà des publics déjà choisis. Du coup, je me demandais comment est-ce... Et donc voilà, avec les financements, on peut peut-être avoir des leviers. Quels étaient les leviers pour que votre démarche s'étende à tous ceux qui en auraient potentiellement besoin? Voilà.
Alors sur les financements, donc on va avoir là par exemple en 2021, on avait 50% de notre budget qui était soutenu par des financements publics, notamment de ça peut être de la métropole de Lyon, un petit peu de la ville de Lyon, le plan de relance aussi l'année dernière, qui nous a permis d'investir plutôt dans du matériel, ce qui était nécessaire. Et puis on a eu aussi un financement de la politique de la ville. Donc ça, voilà, c'était les différents financements publics. Et après, on a des financements privés qui peuvent être de la prestation qu'on va faire pour différents acteurs. Et après, il y a des projets qu'on fait sans financement. Par exemple, la recherche que j'ai pu citer, Manger local en temps de confinement, on l'a fait sans être financé, mais on avait envie de le faire, donc qu'on le fait. Là, on fait aussi des animations donc avec nos bénévoles auprès de mineurs migrants isolés qui sont hébergés dans un squat dans les pentes de la Croix-Rousse. Là, on le fait sans financement aussi. Comme ça, on peut faire ce qu'on veut. On n'a pas besoin de passer du temps à justifier de pourquoi on fait les choses, ce qui est quand même pas mal. Et parce qu'aussi, on a notre communauté qui est avec des personnes engagées. Et du coup, nous, on met à disposition un certain nombre de ressources et qu'ils puissent aussi faire eux-mêmes des actions. Et donc là, nous, on a une soixantaine de personnes membres de l'asso, mais après, on a une trentaine de personnes actives. Et du coup, sur ces différentes sources de financement, après, c'est vrai qu'il y a la question, comment on passe à l'échelle. Donc nous, ce qu'on essaye de mettre en place pour l'année prochaine, c'est de créer un tiers-lieu autour des questions d'alimentation, d'inclusion et d'hospitalité, parce qu'on le coporte avec Singa à Lyon, donc une association qui agit pour faire en sorte que les personnes nouvellement arrivées sur... Enfin, créer du lien entre personnes nouvellement arrivées sur le territoire et population locale. Donc voilà, ça va être un défi pour nous en tant qu'association, mais pour aussi amplifier notre impact et nos activités et avoir un modèle... entre guillemets, modèle économique qui soit encore plus diversifié avec certaines briques qui soient vraiment autonomes. Sur la partie financement. Après, je crois qu'il y avait une question sur le recrutement des personnes. Ça se fait... en fait, nous, on essaye d'être en lien avec plein d'acteurs. Enfin, on essaye de bien connaître les acteurs qu'il y a sur le territoire. Et notamment des acteurs qui sont en lien avec des publics en grande précarité, et de voir après les liens qu'on peut faire ensemble et d'être dans des logiques de coopération pour qu'on puisse toucher vraiment différents publics. Donc c'est vrai qu'on est en lien avec des personnes qui sont vraiment très différentes, qui ont des parcours très différents, qui vivent toutes des situations de grande précarité, mais qui au final sont des situations très différentes et qu'on ne peut pas comparer, qui n'ont pas les mêmes ressources à leur disposition. Enfin voilà, donc après c'est vrai que... on est en lien avec plein de personnes, et puis on est aussi en lien avec des personnes qui sont pas forcément en situation de précarité, mais enfin après ça dépend ce qu'on met derrière aussi la précarité, mais Donc voilà, après, c'est vrai que c'est assez variable. Mais bon, nous, en fait, on se donne aussi des... On se dit, ben voilà, cette année, ce qu'on aimerait, c'est continuer à travailler auprès de ce public-là, ou au contraire, se dire, ben, pourquoi on ne va pas aller rencontrer un autre public. Donc cette année, par exemple, on s'est donné... Ça fait référence à ce que je disais au tout début, c'est comment on peut ancrer encore plus notre projet dans la lutte antiraciste, féministe, etc. Et on s'est dit que ce qui pourrait être intéressant, c'est d'aller à la rencontre de mères isolées, donc public qu'on ne touche pas encore, et de voir, enfin pas trop, et de voir quelles problématiques elles rencontrent pour accéder à une alimentation de qualité digne et durable. Et donc voilà, ça, c'est nous qui nous fixons cet objectif-là. On a initié un certain nombre de choses avec des membres de l'asso, mais pour l'instant, on n'a pas de financement. Et c'est après parce qu'on a envie de... Enfin, on porte une vision, on a envie de faire des choses. Et du coup, on y va aussi sans se mettre trop de freins. Bon, après, quand c'est plus possible, c'est plus possible. Hein, si on n'a plus les moyens humains de le faire. Mais voilà, ça va dépendre aussi vraiment de ce qu'on veut porter aussi comme message et voilà, comme action. Et après, il y avait une question sur, je ne sais pas si j'ai très bien compris, sur le biais du novice. Donc, de se dire qu'on peut repérer des problématiques, mais qu'on n'agit pas forcément dessus, c'est ça ?
En fait, la question que j'avais, c'est pour les individus. Est-ce que c'est... Parce que quand on dit grande précarité, ça me renvoie à l'idée de problème de moyens financiers. Or, parfois, il peut y avoir de la précarité qui n'est pas nécessairement liée. Des questions financières. Et je me posais la question du problème. Est-ce que les individus en question ont conscience que leur alimentation n'est pas bonne pour leur santé ou pour l'environnement, ou est-ce que c'est pas la question ? Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Est-ce que le problème est identifié ? Ou est-ce que c'est nous qui amenons le problème, finalement, en posant la question, sachant qu'en vrai, après, il y a des conséquences sur la santé et qu'on connaît bien. Mmh. Mais ou est-ce que les personnes savent que... Voilà, donc je ne sais pas ça.
Oui, alors déjà, on ne va pas trop dire que... Enfin, ça ne va pas être de, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon ce que les personnes font. On va essayer d'être plus un peu dans ce que tu avais dit à un moment donné, de ne pas individualiser les enjeux autour de l'alimentation en disant que voilà, c'est-à-dire que ce serait un problème en fait individuel le fait de manger telle ou telle chose et qu'en plus c'est un problème et que c'est pas bien et qu'il y a un jugement derrière. Du coup, on part vraiment des pratiques des personnes et après de faire le lien avec des dimensions plus collectives, et ça rejoint d'ailleurs la thématique de ce soir, de repolitiser aussi l'alimentation, en disant que c'est pas un problème individuel, mais en fait c'est un problème qui est plutôt collectif, donc politique, et donc nous c'est plutôt ça qu'on essaye de faire, donc se positionner plutôt là-dessus, en tout cas voilà, de pas être dans le jugement quand on va intervenir auprès de différents publics. Après, parfois, il peut y avoir justement, enfin, dans ce que je disais tout à l'heure, le fait d'objectiver des choses, d'aller chercher de l'info, de la partager ensemble, bah, ça permet de se dire, ah oui, tiens, là, j'ai certaines pratiques, mais en fait, je vais considérer que moi, ça ne me va pas, et du coup, donc c'est là où nous, on met en avant différentes alternatives, parce que c'est une chose de dire que, de se rendre compte qu'il y a quelque chose qu'on va se dire ça va pas, et puis si derrière on n'a pas d'initiatives qui sont proposées, ça ne sert à rien non plus de le mettre en avant, parce qu'à part amener de la culpabilité, ça va pas servir à grand chose. Donc c'est vrai que on essaye d'avoir à chaque fois de proposer des alternatives, et que les personnes, ou alors que ce soit les personnes elles-mêmes qui imaginent des alternatives, et donc après, oui, la question de la prise de conscience. C'est vrai que ça va dépendre, soit elle est déjà là et il y a besoin d'être soutenue dans son changement, soit on est dans cette première phase de changement, donc on prend conscience de quelque chose et l'idée derrière c'est d'avancer pas à pas, mais ça va dépendre aussi des profils des personnes.
Non,
Une nouvelle fois, merci beaucoup pour votre présence, d'avoir pris du temps et surtout pour ces échanges effectivement qui étaient très, très intéressants. Je pense qu'à différents titres, en tant que chercheur, en tant qu'étudiant, je sais que je suis persuadée que mes étudiants ont noté plein de choses intéressantes pour leurs travaux. Donc merci de nous avoir vraiment montré je trouve qu'on a bien vu. Après, c'est aussi le profil de, je pense, ton profil, Marie-Amandine, qui fait que Belle Bouffe a aussi cette couleur recherche. Peut-être que toutes les associations n'ont pas, et c'est ce que tu disais, dans la mesure d'impact, etc. Mais bon, on voit bien les collaborations possibles et ce qui fait que ça enrichit aussi tout ce que vous faites sur le terrain. Donc merci beaucoup à toutes les deux pour vos travaux, vos actions, et merci de partager ça avec tout le monde. Et je vous donne rendez-vous au prochain Amuse-Bouche, qui est le 9 juin, je crois. Donc sur le dernier Amuse-Bouche de l'année, sur le dernier axe de la chaire transition alimentaire. Merci à tous et bonne soirée.